Enfin Itac, lu par Maëlie, Chloé, Louis, Léo, Jules, Com, Louis, Mathéo, Nathan, Tom, Tao, Victor.
Vous écoutez Radio Campus Tours.
Précédemment, Athéna, par un stratagème, confie Ulysse à Nausicaa
pour le recueillir au palais de la reine Arété et du roi Alcinous.
Plus de roulis, plus de bruit de vent dans les aubans, plus de cris de marins, plus d'éclaboussements de la rame qui pénètre dans l'eau. Mais des chants d'oiseaux, des bruissements de feuillage, des bourdonnements d'abeilles. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Avant même d'avoir ouvert les yeux, Ulysse fronça les sourcils, bien réveillé, en alerte. Il aurait dû être dans le vaisseau phéacien, à voguer vers Ithaque. Où se trouvait-il donc ? Il se leva. Le paysage ne lui disait absolument rien. Ses côtes, ses chemins, ses rochers, ses arbres. Non, il n'évoquait en lui aucun souvenir. Les dieux m'auraient-ils encore joué un de leurs fameux tours ? C'est alors qu'il aperçut un jeune berger qui marchait vers lui d'un bon pas. Un beau garçon, ma foi. Un épieu à la main, de bonnes sandales aux pieds, et avec cela, de beaux yeux perses. « Bonjour, jeune homme. Je suis un voyageur égaré. Peux-tu me dire où je suis ? Je ne sais même pas si j'ai débarqué sur l'île ou sur le continent. » Athéna, car c'était elle, bien sûr, se mit à rire. « Eh bien, tu dois venir de loin, étranger. C'est une île et une belle. Elle est trop rocheuse pour que les chevaux y fassent de grandes galopades, mais elle est riche en blé, en vignes, en troupeaux. » Le cœur d'Ulysse se mit à battre. Voilà une description qui aurait pu convenir à Ithaque. « Ah » fit-il, domptant son impatience pour ne pas être impoli. « Comment s'appelle cet endroit béni des dieux ? C'est l'île d'Ithaque, étranger. »
Ithaque, son pays, son royaume, il était enfin arrivé. Que les dieux soient loués et vénérés. Pour un peu, il se serait jeté à terre pour embrasser la terre natale. Mais devant le jeune berger, il se retint. « Eh bien, étranger, tu ne dis plus rien ?» Mais Ulysse, l'astucieux, bien que ravi, ne voulait pas se dévoiler trop vite. Et comme souvent, il pêcha le faux pour savoir le vrai. « Ithaque, oui, Ithaque, voyons, j'en ai entendu parler. Mais nous faisons route vers Pylos. » Athéna, le berger, eut enfin sourire, ironique. « Ah » fit-elle, « ce n'est pas pour rien qu'on t'appelle Ulysse, l'astucieux. Que, quoi, comment connais-tu ?» Ton nom, mais je le connais depuis longtemps. Et aussitôt, elle reprit sa forme de déesse. Une grande et belle jeune femme, parée de ses attributs, son casque, sa lance, son bouclier, une chouette volta tout à coup autour de sa tête, avant de se poser sur son épaule. Ulysse tomba par terre prosterné. Tu es rusé, cher Ulysse. Tu ne renonces jamais, n'est-ce pas ? Non. Je n'ai jamais renoncé à retrouver Ithaque. Je voulais dire, tu ne renonces jamais à raconter des fables et à monter des mensonges pour en savoir plus. Et pourtant, tout malin que tu sois, tu ne m'avais pas reconnu. Pardonne-moi, déesse. Je t'ai repéré il y a longtemps, Ulysse. J'aime les gens déterminés et malins à la fois. Je t'ai suivi, je t'ai surveillé, je t'ai protégé. Si tu as survécu, c'est parce que je ne voulais pas que tu meures dans l'aventure. J'ai bataillé contre les autres dieux, tu peux me croire, surtout contre Poséidon.
Ô déesse, comment puis-je te remercier ? Les yeux perses de la déesse pétillèrent de satisfaction. Ulysse méritait d'être aidé.
Plus tard, tu m'offriras quelques sacrifices, peut-être. En attendant, il va encore falloir t'armer de patience et de courage, comme s'il était de vieux amis, la déesse et le combattant tanné par le soleil usé par. Les épreuves s'assirent côte à côte sur un gros rocher à l'abri de l'olivier. La chouette se percha sur une branche proche. Athéna arracha quelques olives mûres et les partagea avec le héros. Le goût des olives mit presque les larmes aux yeux d'Ulysse. « C'est bon, n'est-ce pas ? » fit la déesse en crachant un noyau. « C'est plus que bon, j'ai l'impression que c'est le goût de ma même patrie. »« C'est le goût de ta patrie ? » Venons maintenant aux choses sérieuses. « Je suis sûre que tu as envie d'avoir des nouvelles de ton royaume. Devine ton déesse. Sache tout d'abord que ta femme t'a été fidèle. Ouf. Non seulement il était dans son pays, mais mon épouse ne laissait pas travailler. Jour et nuit, elle se lamente en attendant ton retour. De plus, elle doit te défendre contre des prétendants qui veulent l'épouser. Oh, cela, je m'en charge. Pénélope a été très maligne, elle aussi, pour les tenir à l'écart.
Athéna lui raconte alors qu'elle tissait et brodait un magnifique linceul destiné à Laërte. Le père d'Ulysse, qui était déjà bien vieux et pouvait rendre l'âme à tout moment. Elle leur a dit, continuez Athéna, je ferai un choix parmi vous quand j'aurai terminé de tisser et de broder le linceul de mon beau-père. Sais-tu la trouvaille qu'elle a mise en œuvre ? Chaque nuit, elle défait ce qu'elle a conçu et brodé dans la journée. Le travail n'avance que très lentement. Ah, s'exclama Ulysse, je le reconnais bien là. Aussi astucieux que toi, hein ? Et Télémaque, un beau jeune homme, je l'ai envoyé en mission à Sparte chez Mélénas à la recherche de renseignements sur toi, pour l'éloigner des prétendants qui lui veulent du mal. Tu l'as donc mis à l'abri, c'est bien cela, en quelque sorte. Et que me conseilles-tu de faire maintenant ? Commence par cacher ton trésor dans la grotte Onaïde qui est là, ensuite nous discuterons. En faisant plusieurs voyages, Ulysse porta dans la dite grotte le coffre au trésor, l'or, les objets de bronze, les toiles finement brodées, tous les cadeaux de fées anyciens, puis Athéna, d'une manœuvre magnifique, ferma l'entrée avec une grosse pierre. Tous deux se rassirent sous le levier.
Or, Ulysse demanda encore à Athéna, « Comment comptes-tu t'y prendre pour venir à bout des prétendants qui abusent de l'hospitalité de ta maison ?» en faisant à ta femme une cour éhontée. « Je ne sais pas encore, » répondit Ulysse. « Si je me montre imprudent, il pourrait bien me tuer. » Athéna le regarda un long moment avec une espèce de demi-sourire. « Je vais te transformer. Ulysse, tu seras méconnaissable. Ni ta femme, ni ton fils ne pourront te reconnaître. Ensuite, tu pourras aller voir Aimé. Aimé, le porcher du palais ? Oui, c'est bien lui. » Et il t'est resté fidèle, lui aussi. Mais ne révèle pas qui tu es. Il vit avec ses bêtes à la roche du Corbeau, près de la fontaine d'Artéus. Tu pourras rester chez lui et prendre des renseignements sur le palais et la meilleure façon de t'y rendre de mon côté. Je vais filer à Sparte et vais faire comprendre à ton fils qu'il est temps pour lui de rentrer au pays. Ulysse n'en eut pas le temps de prononcer. « Je ferai comme tu me l'as dit, déesse. » Qu'elle le toucha du bout de sa lance, sa peau se flétrit et se rida. Ses cheveux devinrent gris clair, semés. Ses membres faiblirent. 20 ou 30 ans lui étaient tombés sur le corps. Il avait l'air d'un vieillard chenu et fatigué aux vêtements. « Maintenant, » dit encore la déesse, de la belle tunique dotée par les Péassiens, elle fit une loque minable trouée, noire de crasse, et lui jeta sur les épaules une vieille peau de serre râpée en guise de manteau. Un bâton et un sac déchiré achevèrent le déguisement. « Mais j'ai l'air d'un misérable chevrota !» Ulysse, d'une voix changée, faible et incertaine. « C'est le but du jeu !» fit Athéna avant de disparaître. Ulysse se tourna alors vers le centre de l'île à la recherche de la maison d'Aimée le porcher.
Quand il aperçut la demeure d'Aimé et ses étables, Ulysse n'eut qu'une pensée. « Ah, voilà les ennuis qui recommencent !» Car les chiens avaient surgi de la maison et se précipitaient vers lui en aboyant furieusement. « Sale bête, arrêtez tout de suite! Vous ne voyez pas que c'est un pauvre vieillard ?» C'était la voix d'Aimé, le porcher, qui s'approcha du vieil homme. « Excuse-les, pauvre étranger. Ils ne connaissent pas les bonnes manières. Appuie-toi sur moi. » Ulysse le remercia d'un faible sourire. « Ah, si tu savais, étranger, la vie n'est pas drôle ici. J'avais un bon maître, il avait l'allure d'un dieu, mais il a disparu à cause de la guerre. Et ce sont d'autres qui viennent piller les porcs bien gras que j'élève pour son retour. Ils viennent, ils prennent et ils s'en vont. Et quand ils ont encore faim, ils reviennent. Et mon pauvre maître, Où est-il pendant ce temps-là? Voit-il encore seulement la lumière du soleil? Le malheureux soupira, les larmes aux yeux. « Bon, se reprit-il, ne pensons plus à cela. Pour le moment, entre dans ma cabane. Je vais te faire un bon petit repas et tu me diras d'où tu viens. » Il alla tuer deux porcelets et les découpa en petits morceaux pour en faire des brochettes, croustillantes qu'il porta à Ulysse, en accompagnant le repas de vin sucré au miel. « Vas-y, mange, il faut en profiter, car j'ai le droit de manger mes porcelets. Les beaux, gros porcs bien engraissés vont tout droit aux cuisines du palais pour satisfaire ces immondes prétendants de la reine. Ils se disent que le maître est mort et ils ne font rien d'autre que piller, tant et plus c'est bien. C'est une honte. »
Ulysse, tout en mangeant ses brochettes et en buvant son vin mielé, méditait en silence et cherchait comment se débarrasser d'eux. Le chef porcher, lui, continua à parler d'une voix enragée. « Quand je pense à mon maître, ah, il ne reviendra pas, hélas. Tu vois, étranger, j'ai perdu mon père et ma mère, et c'est Ulysse que je regrette le plus. » « Écoute, dit Ulysse très touché, je vais te faire un serment. Je te jure qu'Ulysse reviendra. À la nouvelle lune, il sera de retour à Ithaque et il se vengera de tous ceux qui ont outragé sa femme et son fils sous son propre toit. » Eumée secoua la tête, peu impressionnée par la flamme dans la parole de son visiteur. « Je suis sûr qu'il n'en reviendra jamais. Moi, je me fais du souci pour son fils Télémaque, qui est un bon garçon. » Il est parti sur la mer chercher des nouvelles de son père, mais je sais que sa vie est en danger. « Tu en es sûr ? Les prétendants ont le projet de l'assassiner pour l'éteindre à jamais la lignée d'Ulysse. » Allons, écoutons cette conversation déprimante et raconte-moi plutôt ton histoire. Tu dois en avoir des choses à dire à ton âge. » Certes, mon ami, mais il faudrait sans doute un an pour que je te raconte ma vie, ce que j'en ai vécu des tourments. » Pour ne pas révéler ce qui était réellement, Ulysse inventa une histoire abracadabrante. Eh bien, fit Eumée impressionnée, alors qu'il finissait le festin, la nuit tomba, une nuit de vent et de pluie.
Une chouette ulula doucement et Télémaque se réveilla. Il habitait chez Ménélas, qui l'avait accueilli de bon cœur en son palais, mais n'avait pu lui donner la moindre nouvelle de son père. Télémaque se frotta les yeux. La chouette était maintenant perchée sur l'épaule d'Athéna, qui illuminait la pièce. Les rayons de la lune se réfléchissaient brillamment sur sa cuirasse et son casque. Le jeune homme la reconnut tout de suite et se prosterna. « Télémaque, dit la déesse, il est temps pour toi de rentrer à Ithaque. Les prétendants sont devenus intenables. Et même le père et les frères de Pénélope la poussent à se remarier. Bien, je pars tout de suite, fit Télémaque, en se levant. Je vais demander à Ménélas qu'il m'autorise à utiliser un de ses bateaux. Le jeune homme était aussi rapide et déterminé que son père. Attends encore un peu. Il faut que tu saches que les prétendants sont bien décidés à te supprimer, car tu es l'héritier d'Ulysse. Écoute donc mon conseil. Navigue la nuit et accoste clandestinement, puis va chercher Eumée. Il est fidèle et il t'aidera efficacement. Très bien, merci de tes conseils. » Télémaque attendit le réveil de Ménélas pour lui annoncer sa décision de repartir pour Ithaque. « Si tu veux, fils d'Ulysse, tu auras un bateau et un équipage pour rentrer dans ton île. » Le bateau fut vite prêt, les marins se mirent au banc de nage, le mât fut dressé, les aubans tendus, les voiles déployées, à la proue l'œil protecteur surveilla l'océan. Athéna envoya aussitôt un grand vent favorable qui dirigea le bateau tout droit vers Ithaque. Debout à la proue, Télémaque regardait l'horizon. La nuit suivante, il débarqua dans un endroit discret et se mit en route vers la demeure d'Eumée.
Le lendemain, Ulysse se réveilla en même temps qu'Eumée et ils attémèrent les préparatifs du petit déjeuner en allumant un feu. Tous deux se mirent à grignoter pain, fromage et olives. En jetant un coup d'œil dehors, Ulysse s'écria « Tiens, un visiteur. Je pense que tes chiens le connaissent. Regarde, ils lui font la fête. Un jeune homme de belle allure s'encadra dans la porte. Aussitôt, Eumée laissa tomber sa jatte et se précipita vers lui, balbutiant, le serrant dans ses bras, pleurant presque d'émotion. Il lui prit la lance des mains et le fit entrer pour l'attirer vers la table du petit déjeuner. C'était un jeune visiteur de belle allure, Télémaque. Suivant les directives d'Athéna, Ulysse ne s'était pas levé, mais il se poussa pour lui faire une place sur le banc. « Ne bouge pas, étranger !» fit aimablement Télémaque. « Je peux prendre un autre banc !» Il s'assit sans façon. Eumée retourna au garde-manger, fit griller les restes de porc de la veille et confectionna un vin au miel pour que le repas soit complet. Quand tout le monde fut rassasié, Télémaque s'adressa à Eumée. « Eh bien, mon oncle, qu'est donc cet étranger à ta table ? De quel navire a-t-il débarqué ? » Il l'appelait mon oncle par politesse, car il n'avait pas de lien. Il se dit crétois, répondit Eumée. Il a connu de nombreuses tribulations et s'est finalement enfui d'un bateau où il était esclave. C'est-à-dire, vrai, désire se mettre à ton service. À mon service ? Mais comment pourrais-je l'accueillir ? Je suis jeune et surtout, on m'agresse de partout. Quant à ma mère, elle souffre de devoir choisir entre deux destins. Rester fidèle à Ulysse et de me garder auprès d'elle pour gérer sa maison ou se résigner à satisfaire l'opinion publique en acceptant un époux. Ni elle ni moi n'avons plus le moindre pouvoir de décision. Oh non, maître, comment peux-tu... « Dire cela ?» protesta Eumée.
« Tu sais que c'est vrai, » répliqua Télémaque. « Néanmoins, étranger, dit-il, en se tournant vers Ulysse, tu m'es sympathique. Je te ferai donner de bons vêtements que j'enverrai à la cabane de mes. Mais je ne veux pas que tu te frottes aux prétendants. Leur brutalité dépasse les bornes et ils te feraient un mauvais parti. Et j'aurai honte pour mon pays. » « Mon ami, dit Ulysse, mon cœur se fend en entendant tout ce qu'on me raconte sur les prétendants. Dis-moi, n'as-tu pas de frère pour t'aider à en venir à bout ? Ah, je voudrais être encore assez jeune pour les combattre. »« Non, répondit Télémaque, des frères, j'en ai pas, je suis fils unique, je vois fille Ulysse. » Il pléchait dans le plat à la recherche de quelques lardons qu'il mastiquait en silence. Eumée reprit Télémaque, « Peux-tu prévenir discrètement ma mère, Pénélope, de mon retour ? Dis-lui aussi de mettre au courant mon grand-père, Laërte. » J'y vais tout de suite, dit Eumée en filant ses sandales. Dès qu'il disparut, Athéna fit une somptueuse entrée dans la sombre cabane du porcher. Mais seul Ulysse, la vie et peut-être les chiens qui s'enfuirent se mettre à l'abri. Athéna fit un signe et sortit. Ulysse la suivit. Alors, fille Athéna, as-tu reconnu ton fils ? Es-tu fière de lui ? Oui, j'en suis fière, que c'est un beau jeune homme. Acquiesça Ulysse, il a de bonnes manières. Mais hélas, il est trop faible contre tant d'ennemis. Le moment est venu de lui parler, mon ami, de ne rien lui cacher. Vous devez vous rendre en ville tous les deux, et je serai à chaque pas derrière vous. Ulysse jeta un coup d'œil sur sa dégaine de misérable veilleur. Ce serait dur d'avouer sans honte à Télémaque qui était son père, mais la déesse, prenant les devants, le frôla de sa lance d'or. Aussitôt, Ulysse reprit son ancienne silhouette, jeune, droit et alerte. Ses ordres redeviennent les somptueux vêtements donnés par les Phéaciens.
Athéna disparut aussitôt, avec un petit sourire satisfait. Et Ulysse retourna dans la cabane. « Oh, comme tu as changé, mon ami !» fit Télémaque. Cette allure resplendissante, tu dois être un dieu venu incognito. Et il se jeta à terre. Je ne suis pas un dieu, jeune homme. Tu peux te relever. Télémaque se releva, un peu gêné. « Eh bien, qui es-tu donc ? » demanda-t-il. « Je suis Ulysse, ton père. » Et Ulysse se précipita pour embrasser son fils. Mais Télémaque l'arrêta d'un geste. « Je ne crois pas que tu sois Ulysse. Tu es un dieu maléfique qui cherche à me troubler. Voyons, tu étais un vieillard en loque, et maintenant tu ressembles au maître du ciel. » Le héros s'assit auprès de lui. « Je suis bien Ulysse, ton père, » fit-il. « Voilà 20 ans que j'erre, 10 ans de guerre, 10 ans de pérégrination et de tribulation. Mais je suis le protégé d'Athéna, qui peut me transformer si la situation l'exige. »
Télémaque se rendit compte que l'homme disait vrai. Il se jeta contre lui, saisi d'émotion et de sanglots les submergèrent tous les deux. Vint alors le temps des questions. « Comment es-tu revenu à Ithaque, père ? Grâce aux Phéaciens, ces bons marins. Mais pour l'heure, Athéna attend de nous que nous combattions les prétendants. Il nous faut un plan. À nous deux, nous ne pourrons pas, père. Ils sont très nombreux. Il nous faudra des alliés. J'ai déjà des alliés, mon fils. Athéna aux yeux père et notre grand Zeus. Ah, il siège si haut au-dessus des nuages. Écoute, voilà comment nous allons faire. Toi, tu rentres au palais comme si de rien n'était, l'air humble et résigné. Et moi, je te rejoindrai, déguisé en mendiant. Ne dis rien à Pénélope ni à Laërte. Quant aux serviteurs du palais, nous allons tester leur fidélité. Par devant, je te rejoins bientôt. Au palais, les prétendants, en attendant l'heure du repas, s'occupaient activement. Ils lançaient tour à tour le disque et le javelot, comptaient les points, recommençaient et se disputaient la victoire. Télémaque les regardait avec consternation. Les bergers des environs arrivaient de la campagne avec les bêtes à tuer et à préparer. Ils durent écarter les prétendants pour pouvoir accéder aux cuisines. Pendant ce temps, Ulysse, déguisé en vieillard, appuyé sur un bâton, s'approchait de la cité. Il était accompagné de Mée.